conversation entre Emma Rivera, qui est l'artiste photographe qu'on a accueilli cet été en résidence sur place, et Pascal Redet, donc cheminot à la retraite désormais, et qui fait aussi de la photographie amateur. Ils se sont tous les deux rencontrés à l'occasion en fait, de la réalisation des photos d'Emma. Elle était en quête d'histoire et elle a pu prendre un portrait de Pascal, qu'on retrouve juste derrière, dans le coin. Voilà. Et ce portrait est associé à des histoires qui sont retranscrites au dos des cartes postales que vous avez pu regarder. Voilà, donc les conversations, elles ont lieu à la fin de chaque exposition monographique depuis 2019, maintenant. Et ce sont donc des moments d'échange qui sont l'occasion, en fait, de ne pas rester confiné au milieu de l'art et d'ouvrir les discussions à d'autres champs et à d'autres professionnels, d'autres milieux, etc. Pour pouvoir partager avec l'artiste autour de thématiques communes. Aujourd'hui, on va plutôt parler découverte des territoires, voyage, rencontres. Voilà, donc je vous laisse la parole à tous les deux.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Je vais rapidement recontextualiser le contexte de ma présence et de celle de Pascal. Alors, je vais un peu répéter ce qu'a dit Soline du coup. Mais donc je suis arrivée à Dijon cet été pour la résidence et je savais que je voulais rechercher des histoires parce que c'était la continuité d'un projet que j'avais commencé dans une autre région. Donc en tombant devant des unes du bien public, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de publier un appel à témoignages dedans pour rencontrer des personnes et avoir des histoires, mais personne ne m'a répondu. Du coup, j'étais un peu désespérée, je suis allée manger au restaurant à Dijon pour découvrir la gastronomie. Et là, j'ai rencontré par hasard Pascal, ici présent. Et j'ai choisi de l'inviter à discuter avec moi parce que je trouvais que c'était intéressant, en tant qu'ancien cheminot, de son rapport au territoire et qui peut se rapprocher de la mienne, finalement. Et donc, je vais laisser Pascal se présenter rapidement.
Donc, Pascal Redet. Donc, moi, j'ai été cheminot, effectivement. Bon, j'ai 66 ans aujourd'hui, donc je suis en retraite depuis très longtemps parce qu'on prend la retraite assez tôt, en fait. Il ne faut pas trop le dire, mais c'est comme ça. J'ai toujours vécu dans ou à côté des gares, parce que je suis d'une famille de cheminots aussi. Je suis très attaché à la poésie des gares. Et mon rêve d'enfance, c'était d'être chef d'une toute petite gare pour avoir à l'étage un labo photo. Et comme il y avait très peu de trains, c'était pas dans mon imaginaire, c'était la réalité des petites gares, j'aurais eu le temps de développer un peu mes photos à l'étage, comme ça. Et il se trouve que j'ai complètement raté ma vie parce qu'effectivement, je me suis occupé de trains, mais plutôt de grosses gares. Et je n'ai pas tellement eu le temps de faire beaucoup de photos pendant ma vie professionnelle. Voilà. Vie professionnelle que j'ai partagée en gros entre les marchandises et les voyageurs, entre le commercial et l'exploitation, pour ceux qui connaissent, donc entre la technique et puis le commercial. Et essentiellement sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi en région parisienne. Alors, c'est vrai, comme disait Emma, je l'ai rencontrée complètement par hasard, en fait. Et elle m'a fait raconter des vieilles histoires de cheminots. Alors la démarche m'a vraiment surpris. D'abord, j'étais aussi très étonné par sa capacité à écouter, parce que c'est vraiment une artiste, voilà, on se dit elle va nous expliquer un peu ce qu'on doit faire, mais pas du tout. Elle avait une approche très modeste, elle écoutait les histoires avec beaucoup d'attention, un peu comme une éponge. Et puis du coup, ça m'a intrigué, je me suis demandé comment elle allait, ce qu'elle pouvait faire de ces trucs-là, quoi. Voilà.
Et donc j'ai demandé à Pascal de me raconter des histoires de gare, et il m'en a raconté trois. Donc une qui avait lieu dans la gare de Sens, une dans la gare d'Avallon et une dans la gare de Dijon. Et donc pour illustrer les histoires que les personnes me racontaient, je retournais photographier, alors soit les personnes, soit les lieux, soit un objet. Enfin, il fallait que j'illustre ces histoires. Donc je suis retournée dans les gares dont Pascal m'avait parlé, dans certaines des gares, et j'ai fait des photos. Et en fait, en arrivant à l'égard, je me suis vite rendu compte que c'était plus du tout ce que Pascal m'avait décrit, ça avait totalement changé. Par exemple, cette gare dont tu m'as raconté, c'est la gare de...
C'était la gare d'Avallon, on mettait des serpents en
bouteille. La gare d'Avallon avec un chasseur de vipères, et j'avais tout un imaginaire que je m'étais inventé derrière cette gare, et quand je suis arrivée, qu'elle était... assez laide, et toi tu m'as dit que c'était ta gare préférée. J'étais un peu déçue, mais je me suis dit que c'était marrant quand même qu'il y ait tout ce temps qui est passé. Et puis, donc, pour refaire une aparté avec Pascal, sur l'avenue de Pascal, je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que toi, tu avais dû beaucoup voyager dans le territoire bourguignon, donc finalement, tu le connaissais mieux que moi. Et tu avais sans doute une approche qui pouvait être intéressante, une approche différente de la mienne qui pouvait être intéressante, ça pouvait être intéressant d'en parler. Et puis, autre aparté, en fait, aussi, je trouvais que symboliquement, c'était intéressant de t'inviter ici parce que pendant tout le temps de ma résidence, enfin, les ateliers Vortex sont collés à une voie de chemin de fer. Et donc, j'entendais tout le temps le bruit nuit et jour des trains. Et ça a un peu rythmé, je me suis un peu habituée à ce son que j'aimais bien. Et je trouvais que c'était assez symbolique que tu sois là aujourd'hui, de te réinviter ici. Mais donc, tout ça pour en revenir au territoire. En fait, moi, j'ai une approche de la photo assez territoriale, entre guillemets. Enfin, dit comme ça, c'est un peu étrange. On dirait que j'essaie de contrôler un territoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien découvrir grâce à la photo un territoire et surtout par le biais des personnes. Donc, mon approche photographique, elle passe beaucoup par la rencontre qui me permet d'appréhender ces territoires et donc de m'y perdre aussi moi-même. Donc, en arrivant ici en Bourgogne, je suis partie du principe que je ne connaissais pas grand-chose sur la Bourgogne et que je n'étais pas une spécialiste de la Bourgogne, je ne me positionne pas du tout comme ça. Et donc l'idée, c'était un peu d'errer au hasard au fur et à mesure des rencontres, qu'un tel m'indique d'aller voir tel lieu, telle personne, tel endroit. Et c'est un peu comme ça que j'ai marché ici, que ça a marché pour moi ici et que ça avait marché dans les Deux-Sèvres. Donc c'était un peu une sorte de road trip anarchique où il n'y avait rien de prévu à l'avance. Mais avec toujours cette idée de rechercher des lieux à haut potentiel d'interaction, entre guillemets, où je puisse facilement rencontrer plein de gens. Donc ça peut être des bars, mais aussi des gares, parce que c'est des lieux de circulation, quoi, et d'anecdotes, du coup.
Oui, c'est vrai que la gare, c'est un lieu qui est très ouvert, où il se passe beaucoup de choses, des choses parfois dramatiques, des choses extrêmement drôles. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, une anecdote qui me revient maintenant, je ne sais pas si je la raconte, mais c'est quand ils ont mis en service, c'est pour vous dire ce qui peut se passer dans une gare, ils avaient mis en service des automates dans les gares de banlieue, ça se passe des gares de banlieue, pour distribuer les billets. Donc ça n'existait pas avant, on allait forcément à un guichet. Et à un moment donné, l'automate demandait, par une mention sur le panneau, pouvez-vous justifier de cette réduction? Alors il y a des gens qui disaient, oui, je le peux. Ils parlaient à la machine, il y en a d'autres qui montraient leur carte à la machine, vous voyez. Bon, c'est pour dire qu'on peut, il peut y avoir des choses extrêmement drôles. J'ai aussi, bon, malheureusement, il y a eu des morts, des accidents, voilà. Il y a ça aussi dans les gares, y compris des problèmes de voyageurs. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est très ouvert. Et, voilà. Après, tu... bon, voilà, c'est tout. Donc.
et aussi pour moi, ce qu'il y avait d'intéressant dans la gare, même si je n'ai pas travaillé à proprement avec les trains, puisque moi, j'avais ma voiture, donc j'ai beaucoup voyagé en voiture sur les territoires. Mais je trouve que les aires d'autoroute, c'est un peu comme les gares, c'est des lieux de rencontre et de passage. Mais c'est que ces deux modes de déplacement, c'est pas des modes de voyage comme l'avion qui ont un côté exotique. On peut aller très loin en voiture et en train, mais on n'est pas en un instant transporté à l'autre bout du monde. Et donc c'est la possibilité aussi d'un voyage entre guillemets local et de territoires qui sont à portée de main, qui sont à la fois très proches. Et en même temps, pas si proche, il y a quelque chose de presque banal et quotidien. On peut prendre le train ou la voiture pour faire tous les jours le même trajet pour aller au travail. Et je trouvais ça intéressant, ce côté pas spectaculaire, en fait. Et donc, les histoires que j'ai trouvées en Bourgogne et donc dans les Deux-Sèvres, c'est des histoires qui parlent des individus qui y vivent et donc des régions. Et c'est aussi, elles parlent d'une certaine manière... des spécificités locales et des traditions, et en même temps c'est des histoires qui pourraient avoir lieu n'importe où en France, je crois, en fait. Elles peuvent avoir totalement rien de spécifique. C'est des histoires qui pourraient être vécues par monsieur et madame tout le monde. Mais ce qui me fascine dans cette idée de territoire et que j'essaye d'appréhender, parce que le but de ce projet, c'est de faire un peu une cartographie de toutes les régions françaises, c'est qu'il y a une idée d'unité territoriale française qui est totalement artificielle, que ce soit par le paysage ou par des constructions politiques ou économiques, qui est donc totalement artificielle. Et en même temps, au sein de chaque territoire et entre chaque territoire, il y a des aspérités, des différences quand même. Enfin, c'est une espèce de puzzle, et c'est ces paradoxes qui m'intéressaient. Et je pense que mes photos et mes histoires, elles sont à la fois... totalement banale et en même temps elle parle de ces spécificités là.
Tout à fait, je crois que justement voilà, la notion de territoire comme entité, c'est une notion, comme tu dis, assez artificielle, et finalement, souvent, c'est celle de géographes, d'économistes. Mais en réalité, la vision qu'on a du territoire, pour m'être beaucoup déplacé aussi en Bourgogne-Franche-Comté, la vision qu'on a du territoire, elle est faite de bribes, en fait, d'accumulation de petites choses. Et bon, quand j'ai fait des études, une époque de géographie, il y avait un géographe qui a eu son petit heure de célébrité dans les années 80, qui s'appelait André Frémont, qui avait écrit un très beau livre, très bien écrit, que je vous conseille, qui s'appelle « La région, espace vécu ». Et en fait, il expliquait que un territoire, justement, c'était la façon de le vivre qui comptait. Donc c'est à la fois des cercles de concentriques, comme ça, en fonction de notre activité. C'est des points, d'un point A, un point B. C'est un peu un archipel, au fond, un territoire. Et je trouve que dans l'exposition d'Emma, ça ressort. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de diversité, de trucs un peu foutraques, mais qui, au fond, définit quand même au moins une perception qu'on peut avoir du territoire. C'est ça, quoi.
Et après, donc comme je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis arrivée en me disant que je connaissais rien sur la Bourgogne, et donc j'étais une sorte de touriste. C'est aussi pour ça que je voyais ça comme un voyage, comme une touriste. Et donc au début, j'ai cherché dans des guides touristiques des lieux que je pourrais visiter. Et souvent, donc il y a beaucoup de choses qui sont indiquées en centre-ville de Dijon, et finalement, je me suis pas tellement attardée sur Dijon même. Parce que je trouve que c'était un lieu qui était trop marqué par le tourisme et que les touristes prenaient beaucoup de place par rapport aux personnes qui y habitent, et que j'avais du mal à rencontrer les gens. Alors aussi parce que dans des villes, il y a des dynamiques de flou où les gens sont assez occupés et ont moins le temps de se poser et de parler. Mais donc finalement, j'ai pas mal été dans la campagne aux alentours, et c'était un peu aussi ce qui s'était passé dans les Deux-Sèvres et à Niort, quoique Niort c'est un peu plus petit, donc il y avait encore une autre dynamique. Et j'étais pas en été, donc il y avait moins de touristes, mais et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de retranscrire ça sur les cartes postales, parce que la carte postale, c'est quand même un objet qui parle beaucoup du territoire, d'un cliché du territoire qui est censé représenter de manière positive un territoire, qui est un objet totalement populaire et banal. Et en même temps, les histoires qu'on s'écrit sur des cartes postales, c'est souvent pas extraordinaire, quoi. C'est des bisous de Clermont-Ferrand, on a mangé des crêpes à la plage et on fait coucou à mamie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'a intéressée par rapport aux histoires que je pouvais raconter derrière, et j'ai essayé de les détourner, parce que mes photos, j'ai pas essayé de montrer le plus beau côté de la Bourgogne ni rien, à part cette photo-là du lac, ça pourrait être une photo de carte postale, mais là aussi, même dans le cliché, j'essaye qu'il y ait quelque chose qui est toujours quelque chose d'un peu étrange qui s'en dégage. Enfin, c'est un lac qui est en train d'être asséché, donc finalement ça pourrait pas être une vraie carte postale. Et aussi la carte postale, il y avait aussi, avec les photos et les histoires, il y a aussi cette idée de vernaculaire que j'aime bien, d'une approche presque un peu pas professionnelle. Mes photos, ça pourrait être n'importe qui les a fait en vacances. Enfin, elles ont rien en apparence de professionnel, de parfaite. C'est pas trop ça que je cherche. Mais et les histoires que je raconte, elles s'inscrivent pas non plus dans un récit officiel sur un territoire. Mais en même temps, elles parlent, je pense, d'une représentation des vies françaises et d'une époque aussi.
Ouais, sur les cartes postales, c'est vrai que j'étais surpris de voir que ça aboutissait à ça, entre autres. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, bon, déjà, il y a ce décalage qu'il y a toujours sur une carte postale entre ce qui est écrit et la vue. C'est souvent, bon, quelqu'un va écrire, voilà, une semaine qu'on est sous la pluie, et puis on va retourner la carte, on va trouver un beau coucher de soleil magnifique avec des cocotiers, quoi. Hein, ça arrive, ça. Donc il y a ce décalage-là. Il y a aussi ce qui est intéressant à la démarche d'Emma, je trouve, c'est qu'elle se nourrit, en fait, non pas de ses souvenirs personnels, pour faire son travail, mais du souvenir des autres. Donc forcément, ça induit une sorte de décalage. Ce que tu disais, la gare d'Avallon, telle que tu t'imaginais, avec le chasseur de vipères qui mettait les vipères dans l'arrière-boutique de la gare, dans les bouteilles d'alcool, et puis arriver là, sur une gare extrêmement banale qui a été enlaidie, je dois dire, avec fermée exceptionnellement. En plus, elle était fermée, t'as pas de chance. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est ce décalage, et c'est le fait aussi de se souvenir, de se nourrir des souvenirs des autres, quoi, qui m'a vraiment intéressé dans le résultat final. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment lire les histoires derrière les cartes, ça, c'est vraiment un ensemble. Quoi.
Et puis il y a aussi l'idée que les cartes postales, elles me permettaient aussi de faire participer le public, que le projet puisse continuer, que les gens puissent m'écrire, que je puisse leur répondre, et j'aime bien qu'il y ait... que ce soit pas figé, que le public soit pas juste spectateur, mais qu'il y ait un échange, comme en fait quand j'ai rencontré des personnes et que j'ai bougé de tel endroit à tel endroit, que je suis revenue à tel endroit, mais parfois c'était des sortes presque d'enquêtes où on m'indiquait vaguement un endroit ou une personne, et il fallait qu'avec ces quelques informations je retrouve la personne, ou parfois ça marchait pas, j'arrivais jamais à la retrouver parce qu'elle était pas chez elle au bon moment, mais c'était un peu, il y avait aussi ce côté je suis un peu une touriste enquêtrice quoi, mais un peu raté quoi, je suis pas une vraie enquêtrice, je résous pas des crimes quoi, mais pour en revenir au fait que je me sois pas concentrée sur Dijon mais plutôt sur la campagne aux alentours, qui m'intéresse, enfin moi je viens de Paris, et donc pour moi la campagne c'était un peu enfin la ruralité c'est vraiment J'ai un imaginaire un peu de ça. Pour moi, c'est vraiment les vacances de mon enfance avec la carte postale et tout ça. Et donc, tout ce qui est tradition folklorique, il n'y en a pas trop dans les grandes villes en France. Enfin, c'est des choses qui sont beaucoup plus restées en Espagne, en Italie, où les traditions sont beaucoup plus prenantes. Mais en France, il y a eu une espèce d'uniformisation du territoire artificiel, que ce soit par les langues ou donc par les traditions religieuses, toute forme de tradition. Et c'est vrai que j'ai une fascination un peu pour les traditions folkloriques et tout ça, même si j'étais pas bercée dedans, et c'est d'autant plus intéressant pour moi d'aller le chercher en France, parce que parfois j'ai l'impression que ça a été un peu oublié, on a tendance à oublier qu'il y a ça et on va toujours ailleurs chercher ce genre de choses, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les fêtes locales, que j'ai plus ou moins dans d'autres projets, je les ai plus photographiées, mais que j'ai plus ou moins photographiées, j'étais à quelques-unes ici en Bourgogne. Et qu'en général dans mon travail je m'intéresse pas trop aux dynamiques des grandes villes, j'ai jamais fait de projet dans des grandes villes, enfin même maintenant j'habite à Marseille, je fais aucun projet à Marseille, mais plutôt dans d'autres coins aux alentours, beaucoup plus petite échelle, plus humaine, et j'aime bien en fait aller dans des endroits où je serais jamais allée même en vacances, et je pense que c'est ça. La photo, ça me permet d'aller dans ces endroits où j'aurais jamais eu l'idée d'aller. Je suis arrivée dans le Morvan par hasard, j'avais pas prévu d'aller dans le Morvan. En fait, je saurais même pas dire comment je suis arrivée jusque dans le Morvan, mais peut-être pour aller dans cette gare, je sais plus. Mais...
C'est possible. Alors, ce qui est rigolo avec Emma, c'est que vous lui racontez une histoire, 15 minutes après, elle est dans sa voiture, elle est partie, quoi. Après, vous apprenez qu'elle est là, et là. Et je trouve que c'est une démarche très dynamique, très improvisée, qui finalement est encore une fois bien traduite ici, quoi. Tu as parlé de la vie rurale. Oui, c'est vrai qu'elle s'est profondément modifiée. Bon, ça n'a échappé à personne. Moi, je l'ai beaucoup vécu dans ma vie professionnelle parce qu'en 30 ans, c'est sûr que des choses ont changé. Mais je trouve que le regard d'Emma, qui est très amusé sur les fêtes, la fête de la brioche, les caisses à savon, j'aime particulièrement celle du téléphone qui est ratée, puisqu'on voit que le téléphone est passé tellement vite qu'on n'en voit que le dos. Hein. Voilà. Et. Il y avait aussi les sapins de Noël qui poussent comme des sapins. Enfin, tu portes toujours un regard très, un peu distancié et assez drôle, au fond, sur ce que tu vois. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que c'est des récits de vacances. Et peut-être, finalement, même si tu n'as pas trop la nostalgie de peut avoir quelqu'un comme moi qui a déjà plus de vécu, je pense que ça deviendra pour toi des vrais souvenirs nostalgiques, en fait. Mais tu ne le sais pas encore.
Ouais,
c'est
je
ça.
Sais pas encore. Et sinon, je vais refaire une petite aparté un peu pour finir. Donc, en me racontant des histoires, les gens, je leur demandais souvent des objets, parce qu'au début, pour l'exposition, je voulais qu'il y ait donc des photos, des histoires et des objets pour illustrer ces histoires. Finalement, je n'ai pas du tout trouvé la place qui leur convenait aux objets, donc j'en ai rien fait. J'en ai quelques-uns que je n'ai pas encore rendus. Bon, Pascal a oublié de prendre les objets qu'il devait apporter.
Casquette incroyable.
Mais donc, par exemple, pour la vipérine, donc, tu m'avais parlé d'une histoire de chasseur de vipères, donc j'avais été dans le Morvan, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de la vipérine, donc de l'alcool avec de la vipère, mais c'était, ouais, c'était vraiment une enquête, je demandais à tout le monde me disait, ah, je connais peut-être quelqu'un, mais comme c'est pas autorisé, je peux pas vous dire. Bon, au final, j'ai trouvé un vieux pot dans un musée, donc il n'est pas buvable. Et il y avait toi, c'était une casquette d'ancien cheminot, du coup, de la SNCF. Tu avais aussi une photo de paysage qui était dans une déco de train qui était pas mal. Il y avait aussi, parce qu'on m'a beaucoup parlé de Mitterrand, donc je voulais absolument avoir une photo de Mitterrand dans le Morvan le jour de son élection. Ça aussi, c'était compliqué parce que l'hôtel où il allait, la personne qui gérait l'hôtel était malade, mais il y avait il y avait plein d'objets. Il y avait aussi la statuette de la maison brûlée du monsieur qui a derrière, qui s'appelle Georges, qu'il a fabriqué avec tous les objets, enfin, qu'il a récupéré dans sa maison qui a brûlé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait une pierre d'un parking où il y avait des fantômes, mais je ne sais pas où est passée la pierre. Et il y avait aussi une devanture de bar, d'un bar... il est où ? Ah bah là, non, il n'y a pas la photo, elle est dans les cartes postales. D'un bar, le bar en face du lac de Kyr où il y avait... la plage. Où on m'a raconté beaucoup d'histoires. Enfin, le propriétaire m'a raconté beaucoup d'histoires. Et sinon aussi, tout à l'heure, j'ai ouvert la boîte aux lettres qui était... Il y avait une boîte aux lettres où les gens pouvaient m'écrire des lettres pour voir un peu ce qu'on m'avait écrit là pendant ces 2 mois. Donc je peux vous lire quelques-unes, j'ai pas vraiment choisi, hein. Je lis un peu au hasard les histoires, donc il y a peut-être des choses plus ou moins intéressantes, et c'est écrit de manière plus ou moins lisible, donc je vais lire plus ou moins bien. Juste pour donner un ordre d'idée, donc là il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est pas signé, qui sur cette carte postale, donc qui était un camping dans le Morvan, qui est l'image qu'il y a là, raconte une fois dans le Morvan avec mes copains, on a cambriolé un bureau de tabac chez une vieille femme. Donc on a cambriolé un bureau de tabac chez une vieille femme et cette même vieille femme a tiré au fusil dans la jambe de mon copain. Et après on est allé enterrer toutes les cartouches de cigarettes dans les bois de Frany avant d'emmener mon copain à l'hôpital et a marqué « Don't call 911, please ». Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un enfant qui m'a écrit sur la Bible « Je suis le diable ». Après, il y a une histoire de fantôme. J'ai 15 ans, un soir je vais dormir chez ma tante, elle va se coucher dans sa chambre et moi je dors sur un matelas dans la chambre d'amis. Son petit ami arrive, elle me demande alors de dormir chez sa voisine du dessus. Alors que je suis dans le lit, je vois le chat dans un coin de la chambre regarder au-dessus de moi et fixer un point. Tout à coup, je sens comme si quelqu'un m'écrasait d'un énorme poids. Je me lève en criant et me sauve de l'appartement en pleurant. La voisine vient avec moi dans l'ascenseur. Quand je lui raconte pourquoi je veux rentrer chez ma tante, elle me répond « Ah, mais ça, c'est Georges, le fantôme de l'appartement. Il est gentil d'habitude. » Et j'ai pas dormi de la nuit, elle finit. Après, il y a... Sur cette photo, il y a Madame Jeanne, voue une dévotion totale à son fils Bernard, qui hélas ne lui a pas permis d'avoir de petits-enfants. Bernard aime les garçons. Alors Jeanne s'est dit qu'elle ferait quotidiennement des incantations devant un joli petit hôtel de sa composition pour appeler son fils à mieux regarder les filles. Elle a pu ainsi recycler toutes ses belles poupées de collection. Donc ça, je pense que c'est peut-être plutôt une histoire inventée, je ne sais pas. Sinon, il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui dit à Anno, plus aucun médecin depuis plus d'un an, le département 71 veut que j'y aille travailler en antenne. Non, 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 je n'ai pas de chaussures de randonnée. voilà, enfin, c'est plein de petites histoires comme ça. Et je ne sais pas si vous avez des questions.
L'exposition assez intéressante parce que par rapport à ce que vous avez dit, c'est comme si on ouvrait une fenêtre. Il faut tout ce que tu ouvres une fenêtre et on arrive sur la campagne, sur l'histoire derrière, ou même peut-être.
Ouais, c'était un peu ça.
C'est un peu ça, ouvrir une fenêtre.
Est-ce que vous pensez que les territoires, finalement, sont façonnés par les personnes? Parce que vous parlez tout à l'heure de la géographie, finalement, d'un type de géographie, donc entre 79 et puis finalement 21. Et est-ce que justement les personnes, elles façonnent ces territoires en tant que facteurs? Est-ce que le fait de l'avoir laissé là, finalement, ça crée une identité propre et ça crée une petite histoire autour, mettons, du Gabon en disant, tiens, le père machin ou la mère machine, elle a laissé le tracteur depuis 20 ans, 30 ans, et puis ça rayonne autour, et puis c'est quelque chose qui se fait. Et est-ce que les territoires, finalement, ils se créent comme ça, de manière...
Moi, je vais répondre de manière non professionnelle, parce que je ne suis vraiment ni géographe, ni sociologue, ni rien, donc mon approche du territoire, et comme mon approche de la photo, elle est vraiment... de manière anarchique et non professionnelle, mais oui, je pense, enfin, moi, mon point de vue et mon approche du territoire, c'est que ce territoire, il est façonné par les gens, et c'est ça qui me fascine, moi. Mais après, j'imagine que si on est sociologue ou géographe, on a une toute autre vision et une toute autre manière de rentrer sur le territoire, même architecturalement, c'est vrai qu'il y a des différences. Après, c'est de plus en plus uniformisé quand même, mais je pense que c'est les individus qui façonnent le territoire.
Je crois que c'est aussi ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est son propre regard, en fait, qui définit le territoire. Je crois que c'est ça. Souvent, on essaie de définir le territoire, mais le territoire vécu, au fond, a sans doute plus d'importance que le territoire décrit et théorique. Et quand on réfléchit à ça, on se dit finalement, est-ce que je connais, par exemple, la Bourgogne? D'ailleurs, je connais tel point, je vous disais tout à l'heure, un archipel, quoi. Des petites choses. Par exemple, cet ours, je le connais, j'ai déjà rencontré sur la route, je sais où il est.
Il
est très proche d'une gare qui est désaffectée d'un viaduc sur une ligne, il est au Pulet exactement. Et donc quand j'ai vu la photo, je disais c'est extraordinaire parce que cet ours, au fond, moi je l'aurais peut-être pas photographié, pourtant je le suis passé plusieurs fois devant. Et je, voilà, donc il y a un point, comme ça, il y a cet ours, il compte dans la perception que j'ai du territoire. De même que la tronçonneuse, l'énorme tronçonneuse, j'ai déjà vu ça, je ne sais plus exactement où elle est.
Elle est là-bas.
Je ne sais même plus exactement où elle est.
C'est un petit patelin ou...
Avant Autun, d'accord, oui, ok. Et oui, c'est ça, oui, exact, oui.
Pour l'anecdote,
maintenant, ça me revient.
Ceux qui ont fait cette, je trouve plus le mot,
tronçonneuse
géante, ont participé au concours de... C'est toi qui me racontais ça, Soline ?
Non, je suis allée faire des recherches.
Oui, et je sais pas, ils ont pas gagné, je crois, mais...
En fait, oui, parce que j'étais intriguée par l'objet, forcément, qui est comme une exposition que j'ai renseignée. Et... En fait, elle a été tronçonnée dans un séquoia géant parce que les employés de l'entreprise Griot ne voulaient pas faire de bois de chauffe avec. Ils se sont dit on va faire la mascotte de l'entreprise. Et finalement, donc, c'est devenu cette tronçonneuse immense, comme ça, installée en bord de route devant les locaux. Et au moins, ils l'ont donc démontée pour l'emmener au salon, apparemment Eurofolas, c'est un salon de forestier.
Vous voulez y passer.
C'est vrai que tous ces objets, puis cet intérêt pour les choses au fond assez banales, les portraits de gens ordinaires, ça donne une universalité, je trouve, qui est, voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas de tuiles vernissées, il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas d'abbaye cistercienne, enfin il n'y a pas tout ça.
Est-ce que quand vous avez rencontré des gens, vous avez quand même rencontré des gens qui parlent encore le patois, qui ont encore un accent? Parce que moi, mes parents, par exemple, venaient de la Seine-et-Loire, de la Presse.
Dans le Morvan, ouais, j'ai rencontré pas mal de personnes âgées, donc elles m'ont pas parlé en patois parce que moi j'aurais pas compris, je pense, mais qui avaient un accent et quelques expressions, oui.
L'uniformisation, elle se met en marche comme ça, et après vous avez parlé de nostalgie. Et en fait, au final, toi, ta démarche à aller trouver en fait des histoires qui sont des histoires qui appartiennent à des personnes dedans et qui sont, enfin, la période vernaculaire en plus. Donc je crois que c'est dit quoi. Et en fait, il y a déjà justement une nostalgie, je pense, mais de quelque chose que tu connais pas et qu'en fait la plupart des gens connaissent pas. En fait.
Bah. Pascal, lui, il disait qu'il avait une nostalgie. Moi, je ne l'ai pas connue, donc je ne sais pas. Peut-être c'est inconscient. Peut-être que ouais, je recherche un truc que je n'ai pas connu, mais dont on m'a parlé. Mais je ne sais pas si c'est de l'ordre de la nostalgie. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus de l'ordre du... Quelque part, je trouve ça... En fait, je ne sais pas, moi, ce qui m'avait marqué... Alors là, je ne vais pas du tout parler de la Bourgogne et de la France, mais en Espagne ou en Italie, je trouve qu'il y a... Vraiment, après le reste de l'Europe, je connais pas assez, mais y a, enfin, même dans des grosses villes comme à Madrid ou à Rome, il y a vraiment des traditions très anciennes avec des folklores, des défilés qui ont été gardés, qu'il y a beaucoup moins en France. Et du coup, d'aller essayer de trouver ça en France, ça m'excite un peu de me dire que en fait, nous aussi, on peut l'avoir, mais que c'est on l'a oublié ou que c'est un peu caché ou que. Je sais pas si je réponds à ta question, mais peut-être qu'il y a une forme de nostalgie quelque part. Mais je me dis pas, c'était mieux avant, c'était pas dans ce sens.
Ouais, non, mais c'est pas ce que j'entends forcément. C'est le désir de voir autre chose que un mode de vie urbain qui est finalement hyper marqué, hein, à travailler, aller voir des verres, profiter d'une vie culturelle en fait. Mais là, une vie culturelle qui prend une autre forme. Cette course de caisse à salon, c'est déjà en fait un phénomène culturel à part entière.
Bah après, c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même. On est vachement en ce moment dans un retour de néo-ruraux, il faut aller. Des gens qui vont faire un élevage de moutons, je sais pas où, avec des nouvelles méthodes. C'est vrai qu'il y a ça, donc c'est dans l'air du temps, donc peut-être que inconsciemment j'en suis imprégnée, mais après là, pour l'instant, j'ai pas été voir des néo-ruraux. Enfin, je crois pas.
Ah oui, ouais.
Enfin, j'ai pas été au nid des gens qui avaient monté un lieu culturel en pleine campagne, ça, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont. Une espèce d'idéologie qui revient en ce moment.
Mais c'est même déjà une importation. Mais le fait de. Enfin, moi je trouve ça super bien le fait d'amener quelque part sur un territoire qui est peut-être en déshérence, d'un point de vue. D'un point de vue effectif et du point de vue des politiques. Mais le. En fait, c'est déjà ramener un mode de vie qui appartient pas forcément aux gens qui sont sur ce territoire. Mais je ne critique pas le fait qu'on ouvre un centre d'art dans une région complètement paumée. C'est des gens qui ont une valeur de laquelle paumée. Mais il y a une qualité en fait. En fait, tu rends de cette manière en montrant ce truc qui peut simplement être pris, donc cette course d'un point de vue étrange et drôle vu de l'extérieur. En fait, tu. Juste le fait de te dire que ça vaut le coup de l'immortaliser, en fait, tu lui rends déjà sa particularité et une existence.
Voilà. J'espère. Oui.
Moi, j'ai une question par rapport à tes projets futurs. Tu avais évoqué au moment de ton dernier message que tu avais un projet de résidence avec les ouvriers en sidérurgie. Est-ce que c'est toujours le cas? Enfin, je ne sais pas comment tu commences.
Oui, j'ai déjà commencé. Mais
et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu allais appréhender justement ces ouvriers, ces employés en fait, de ces usines, au travers de la question de la rencontre, parce que là, finalement, tu vas les rencontrer au sein même de leur fonction au sein de l'entreprise. Là, ce qui est un peu différent dans toutes les photos que tu as faites précédemment, c'est que tu es allé à eux, dans leur contexte de vie, dans quelque chose de très intime. Et finalement, comment est-ce que, dans ta pratique de photographe, tu vas aborder justement cette rencontre dans un cadre beaucoup plus extérieur à eux ?
En fait, la résidence que je suis en train de faire dans des usines, elle est différente parce que c'est un temps très court dans chaque usine. C'est 5 jours par usine, il y a 4 usines. Donc, c'est très difficile de créer un vrai lien avec des personnes. Et les usines ont tendance plus à voir ça comme, pas comme une résidence, mais comme une commande pour eux qui valoriserait leur savoir-faire. Donc, on va dire que j'ai beaucoup plus de contraintes, ce qui fait que je peux faire quelque chose de beaucoup moins personnel. Voilà.
Et, ouais, tu vois, c'est un petit peu ça ouais, aussi. Aller à la rencontre de l'autre, finalement, ça engage un rapport aussi au temps.
Ouais, bah oui.
Un homme et à la fois aussi de cet espace intime en fait qui est créé entre le photographe et le sujet.
Bah, c'est sûr qu'il faut un certain temps pour les gens de me faire confiance, pour moi aussi d'être à l'aise, et que quand il n'y a pas ces données-là, c'est quelque chose de beaucoup plus superficiel en fait. C'est de l'ordre plus de la surface. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas moi qui ai créé ces contraintes, donc je fais avec. Là, je le vois plus comme une commande en fait que comme un projet personnel du coup.
Mais est-ce que, enfin, c'est aussi une question un peu sous-tendue de la campagne aussi qui peut permettre parfois ce rapport au temps qui est beaucoup plus long et qui permet tant la rencontre ou même eux dans les modes de vie finalement. Quand toi tu arrives avec ton appareil photo, on est dans des espaces-temps qui sont plus longs, donc la rencontre se fait, donc finalement tu peux aussi remplir plus facilement ton appareil photo.
Ouais, après je pense qu'en ville aussi ce serait possible dans des grandes villes, même à Paris, mais c'est juste que si je le faisais dans une grande ville, je me cantonnerais à un territoire précis dans une ville, parce que sinon il y a tellement de gens. Il faudrait que j'ai un temps d'incubation dans un endroit. Ce serait un immeuble, un parc, peu importe, un quartier, une école. Mais je pense que l'approche, elle serait différente. Enfin, il faudrait que je le contourne d'une autre manière parce que les gens, ouais, ils ont moins cette disponibilité.
Et pensez-vous que ça démarque les personnes que vous avez rencontrées, peut-être un peu plus individuellement, parce que vous pensez que vous, en tant que photographe, votre expérience, en tous les cas, ce que vous avez mené par rapport au projet, vous les avez marquées durablement? Marquer durablement, peut-être par rapport à quand une photo ou quand il vous donne quelque chose finalement qui est un petit peu une part d'eux, comment vous pensez que finalement, vous, votre projet va perdurer chez eux?
Je pense qu'il y a des personnes que ça marque plus ou moins durablement. Il y avait des échanges qui étaient aussi plus ou moins longs. Il y a des personnes qui n'ont pas l'impression de se confier parce qu'en fait, ils étaient très contents de me raconter ce qu'ils m'ont raconté. Ils étaient prêts à le raconter au premier venu. Et il y a des personnes, oui, je pense que on garde contact en fait. Donc,
Pascal est là.
Donc, et au vernissage, il y a quand même pas mal de personnes que j'avais prises en photo qui sont venues. Pas toutes, parce qu'il y en a qui sont trop âgées, qui vivaient trop loin. Mais ouais, après, je peux pas répondre en leur nom.
Je pense qu'à partir du moment où on raconte son histoire, on raconte des histoires qui nous appartiennent, on se livre. Je pense que ça me semble être ta démarche, quoi. C'est-à-dire d'essayer de... Justement, si c'est juste une rencontre comme ça, par rapport au présent, je pense que ça n'a pas le même poids que d'aller chercher des souvenirs enfouis, où là, on fait aussi un travail soi. Et du coup, oui, le lien... Puis bon, c'est quand même une histoire à épisode, donc on attend de voir un peu la suite, etc.
Enfin, oui, j'essaie de quand même que ce soit quelque chose de... J'essaie, en général, même quand c'est quelque chose de très rapide, de pas juste prendre ou faire un sujet photo sur des gens, mais avec des gens plutôt que sur des gens, parce que c'est quand même, en photographie documentaire, c'est un peu un écueil, je trouve. Après, comment faire avec les gens, comment les impliquer le plus possible, ça c'est une question que je me pose tout le temps et j'ai pas la réponse. J'essaie juste de garder contact quand ça intéresse les personnes, parce que si des gens ça les intéresse pas.
Vous vous posez la question, c'est une frustration ou alors c'est...
Non, parce que je pense que c'est... Non, mais c'est une question, en tant que photographe, comment je me positionne par rapport aux choses ou aux gens que je photographie, c'est une question qui se renouvelle à chaque projet, qui se renouvelle en fonction de chaque personne aussi, et c'est pas que je suis frustrée, c'est juste que je me dis, je peux toujours faire mieux, je peux toujours faire différemment, j'essaye, quoi. J'apprends. Parfois, je l'ai mal fait, au début, je faisais mal, j'ai compris, je me suis rattrapée, je change, j'apprends, quoi.
De Pascal, lui, ça a changé aussi sa manière de photographier ou ce rapport à la photographie, de la rencontre.
Ouais, alors après, bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que. C'est sûr que.
Vous êtes photographe.
Oui, ça interpelle. Moi, je suis aussi attiré par les petites choses banales comme ça. Enfin, je suis plus là-dedans. Le spectaculaire, j'aime pas. Donc là, je crois qu'il y a des choses, il y a des points communs. Mais encore une fois, c'est un hasard complet. Et c'est ce que j'apprécie là. Il n'y a pas de spectaculaire, quoi. En fait, c'est vraiment la vie qui va comme elle va. Voilà, point. Après, c'est vrai que ça fait réfléchir sur la. Ben, il y a aussi l'ampleur du travail qui est important. Hein. C'est vrai que souvent, bon, quand on fait de la photographie, on cherche la belle image, etc. Là, c'est pas le sujet. C'est un sujet beaucoup plus global qui embrasse des thématiques plus larges. Et je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Et forcément, ça fait réfléchir, quoi. Après, sur la façon de prendre des photos, là, oui, alors là, oui. C'est des trucs.
Non, mais du coup, c'était la réflexion.
Oui, oui. Ouais. Oui, mais en fait, on n'a pas trop parlé de ça.
Ouais, non, on n'a pas trop parlé de technique. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai vu ton appareil photo.
Parce que je l'ai photographié, en fait. J'en ai profité. Il n'y a pas de raison. Elle a fait une photo de moi, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas une photo d'elle.
Et il y a des questions de nostalgie. Là, en ce moment, il y a pas mal de questions de nostalgie des années 80. Est-ce que c'est lié le portrait de...
Ah, non, alors c'est un total hasard. C'est juste que dans le Morvan, il y a 4 personnes qui m'ont parlé de Mitterrand. Et moi, je ne savais pas du tout que Mitterrand, il était lié au Morvan. Et du coup, pour illustrer ces histoires, bah, je cherchais dans l'hôtel du Morvan. Enfin, j'avais téléphoné, je voulais absolument avoir une photo vu que je cherchais des objets. Mais moi, je n'ai pas de nostalgie de Mitterrand.
T'avais quel âge en 80? T'avais moins de
J'étais pas née. Et, Donc non, par rapport à Mitterrand, j'ai pas...
Les années 80, il y a pas mal de visiteurs qui ont cru que les photos avaient été prises dans les années 80.
Ah ouais?
Même quand on précisait le contexte au départ en disant ça a été fait cet été, elle était en résidence.
Après, c'est vrai que j'utilise des pellicules, enfin, je travaille à l'argentique, donc peut-être qu'il y a ça.
Oui, dans la colorimétrie, hein, ça y a des trucs.
Et en fait, c'est vrai que quand on voit les photos, chacun peut se raconter l'histoire parce que ça peut être pris, à part celles qui sont vraiment Dijon, ça peut être pris n'importe quelle campagne. Et à n'importe quelle époque, parce que les maisons, elles n'ont pas changé.
Ouais.
Les tracteurs comme ça, à un moment donné, on en voit. Voilà, quand on sillonne un peu la campagne, ça peut être dans n'importe quelle campagne.
Est-ce que, après avoir pris les photos, les personnes, est-ce que vous leur avez montré les photos?
Ah oui, je leur renvoie toujours les photos.
Mais en votre présence?
Non, mais j'avais pas le temps de. J'ai développé les photos une semaine avant l'exposition, j'avais pas le temps de.
Je pense qu'une fois qu'elles voient les photos avec vous, ça inciterait à raconter encore une histoire.
Ouais, mais ça je suis d'accord, il faudrait que je puisse avoir le temps. Et l'argent de revenir, de refaire le voyage, j'aimerais beaucoup, mais déjà si par mail, j'aime bien en général, pas que forcément pour ce projet, mais avoir des retours des gens sur les photos que j'ai prises d'eux, parce que parfois il y a des gens qui me disent « Ah, je me trouve vraiment pas beau sur cette photo » ou « Ah, j'adore », ou enfin ils ont tous, enfin c'est intéressant de voir le rapport à leur propre image, et après il y a des gens qui s'en fichent aussi, qui sont là « Ah, d'accord, très bien, bon, voilà ». Voilà, ils sont passés à autre chose. Donc non, ça m'intéresse. C'est pour ça que puis c'est important, j'ai pris des photos d'eux, de quand même pouvoir leur renvoyer. Et aussi grâce à ces cartes postales, je me dis que c'était aussi le moyen de leur renvoyer par la poste après les cartes postales. Donc voilà. Le projet c'était de chercher des histoires dans la région et de les illustrer en photo, c'est ce que j'ai fait. Et au vernissage, en fait, j'ai raconté tout mon voyage dans la région avec toutes les histoires que les gens m'avaient racontées dans une sorte de performance. Enfin, j'ai activé, on va dire, les images qu'il a comme ça. On sait pas, on peut s'inventer n'importe quelle histoire ou pas d'histoire. Enfin, je veux dire, je les ai pas racontées à côté des images. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir un objet qui permette d'avoir la trace écrite des histoires que j'avais racontées à l'oral avec les images et la carte postale. Ça me paraissait être un mixte entre le moment où moi je racontais les histoires, les photos qui sont sur les murs et l'objet qui synthétisait un peu tout ça, et que les gens puissent me répondre ou pas, les emporter, les envoyer à quelqu'un d'autre.
Donc c'est vous qui avez écrit les histoires derrière chaque carte?
Oui. D'accord. Et après, il y a d'autres... il y avait des cartes postales vierges où les gens étaient invités à écrire d'autres histoires, dont celle que j'ai lue par exemple tout à l'heure, que j'ai découvert il y a une heure en arrivant, parce que c'était dans une boîte aux lettres et je n'avais pas ouvert la boîte aux lettres. Et donc j'ai eu, je sais pas... une soixantaine de cartes postales avec, alors parfois il y a des gens qui c'était plus de l'ordre du livre d'or qui disent j'aime ou j'aime pas, et après il y a des gens qui ont raconté d'autres histoires, et je vais répondre aux gens qui m'ont laissé des adresses, parce qu'il y en a plein qui m'ont pas laissé, donc on va peut-être continuer à se parler comme ça.
C'est bien parce que maintenant on
ne
reçoit plus des cartes postales, ouais. On reçoit des SMS.
Non, non, je suis très contente. En ce moment, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, de temps en temps, il y a une carte postale, donc ça change. Des papiers officiels, puisqu'on reçoit que ça maintenant dans les boîtes aux lettres.
Est-ce que c'était une manière de finalement la carte postale de faire de cautionner vraiment le peu de personnes qui vont sur ces territoires, parce que finalement, c'est un petit peu dépeuplé, c'est un peu désœuvré, c'est un peu. C'est pas très sexy, c'est pas très exotique, voilà. C'est le rapport au voyage, c'est-à-dire que le rapport au voyage, je vais se dédier à la carte postale. Quand on va loin, on a envie d'avoir une belle carte postale avec des cocotiers, du soleil, machin, un petit coup, comme tu le disais, Pascal. Mais et donc, quand on va sur ces territoires-là, est-ce qu'on s'attend justement à recevoir une carte postale, parce que
moi, je trouve ça très exotique comme territoire. Mais ouais. Après, c'est.
Ça dépend de l'exotisme ou de place.
Oui, ça dépend de l'exotisme ou de place, mais. Comme c'est juste pas l'endroit où je vis, c'est forcément, il y a forcément des choses que je connais pas. Même là où je vis, je pourrais trouver de l'exotisme en bas de ma rue. Enfin, je veux dire, il y a forcément quelque chose d'inattendu et d'incongru. Et la carte postale, il y a quand même. Bon, après, c'est différent de la carte postale de voyage en France, mais il y a aussi, et ça c'est pas le propos de mon projet, mais il y a aussi toute une histoire coloniale de la carte postale exotique qui n'est pas du tout le propos de ces cartes postales-là. Mais il y a. La carte postale, je trouve que c'est un objet très intéressant en soi, qui dit beaucoup de choses sur une époque et c'est des territoires et une politique et une vision du tourisme aussi.
En fait, l'exotisme, c'est pas la distance, quoi.
Non, c'est la rapport au voyage que vous avez abordé un petit peu plus.
D'ailleurs, si on veut moins voyager, il va falloir s'habituer à trouver de l'exotisme un peu plus près de chez soi. Ça me paraît sain, en fait, comme démarche.
Très drôle la carte postale sur le bar de la plage du lac Kir et la petite histoire qu'elle avait, parce que ça fait 3 ans que j'habite à Dijon et à chaque fois que je passe devant ce bar de la plage, je me pose plein de questions. Je me dis, mais c'est quoi cet endroit? Il est ouvert, il est fermé.
Mais il est fermé.
Et de lire l'histoire, je me dis, ah ben voilà, ça y est, le mystère.
Bah en fait, moi, c'est la même chose que toi. Je suis passée devant à chaque fois que j'allais. Que je prenais l'autoroute, je passais devant et je me disais, j'étais un peu intriguée et j'ai voulu aller prendre un café, c'était fermé, mais heureusement il y avait quelqu'un à l'intérieur, donc c'était.
Je
ne
regardais plus la même manière, ouais. Quand je passais devant.
Mais ça avait l'air d'être pour les, parce qu'il y avait des gens du coup qui le connaissaient, qui étaient déjà allés avant que ça ferme. Ça avait l'air d'être un lieu étonnant. En tout cas, le propriétaire est étonnant, donc j'imagine qu'à l'époque ça devait être assez étonnant.
Il a toujours son chien?
Oui, bah, je ne sais pas si c'est le même, mais il est. Ouais, qui est un peu qui défend bien son territoire.
Ces Indiens.
Ouais, mais ils sont dedans, ils sont plus dehors les Indiens. Oui.
C'est hyper célèbre, tout le monde connaît le bar et ça. Et
bah, y a un côté, bah, le bar à la plage, c'est un peu une légende locale. Mais là, même au vernissage, il y avait plein de gens qui étaient... Le jeu des gens, c'était de retrouver où avaient été prises les photos à chaque fois. Ça, c'était tel lac, ça, c'était telle statue à tel endroit. Et après, si ça, ces photos, elles étaient présentées dans une autre région, ce serait aussi marrant de voir... puisque les gens, du coup, ne reconnaîtraient pas du tout, je pense. Ce qu'ils auraient à dire, si ça leur parlerait ou pas. Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant de voir, en fonction de où sont présentées les photos, le rapport qu'ont les gens avec... Bah, j'ai adoré, j'y suis allée et ça me faisait penser à... Je trouvais ça hyper énigmatique et cinématographique comme territoire. Puis j'ai parlé à plein de gens là-bas, donc j'y suis... c'est vraiment un hasard, parce qu'après j'avais été plus dans vers les vignobles et tout. Le territoire me plaisait moins, je sais pas, c'est vraiment un choix par goût, quoi. Il n'y avait pas de démarche en particulière. Et puis j'avais l'impression que dans le Morvan, il y avait vraiment une identité morvandelle dont les gens étaient fiers. Et les gens avaient plein de choses à raconter sur le Morvan. Et ils étaient très très fiers de leur région. Et je trouvais ça intéressant, le rapport du Morvan au reste de la Bourgogne. Un peu comme des espèces d'indépendantistes qui...
Le Morvan, c'est plus un prolongement du Massif central, même quand on regarde la carte des géographies physiques, pour le coup. C'est très peu tourné vers la Bourgogne. Bon, c'est divisé au moins en trois départements, ce truc-là. C'est très particulier, mais je pense que tu as aussi trouvé une forme de dépaysement.
Ouais, ouais.
C'est un endroit où, finalement, les choses ont peut-être moins bougé qu'ailleurs aussi.
Je trouvais que c'est Twin Peaks, enfin, j'avais l'impression. Chercher les États-Unis, en fait.
Faire la bûche.
Ouais.